France Bleu Brésil. France Bleu.
À 11h04, c'est le moment de retrouver Louis Gilda pour les faits divers en Bretagne. Et aujourd'hui, vous allez tout savoir sur ce crime crapuleux à Élian. Fañch Gourmelin, un ouvrier agricole d'Élian, est retrouvé un jour d'octobre 1930, mort dans un champ de pommes de terre appartenant à son patron Jean-Louis Kéméré. Que s'était-il donc passé? On va tout savoir avec Louis Gilda.
Le dimanche 12 octobre 1930, sur le coup de 16h30, on trouva le cadavre de Fañch Gourmelin dans un champ de pommes de terre aux confins des communes d'Élian et d'Ergué-Cabéré. Fañch Gourmelin, un ouvrier agricole de 55 ans, était employé depuis 3 semaines à l'arrachage des patates sur la propriété de Jean-Louis Kéméré. Comme cela se pratiquait à l'époque, le journalier était nourri et logé, et à l'issue de sa mission, il devait être payé en sac de pommes de terre. François Gourmelin, que tout le monde appelait Fañch, était un homme sobre, comme un chameau, ce qui, dans la corporation des ouvriers agricoles, était une qualité rare. Ce jour-là, son patron, étonné de ne pas le voir venir à la ferme pour la collation du 4 heures, partit à sa recherche et le trouva étendu sur le dos, inerte, le visage ensanglanté. Pensant à un accident, Jean-Louis Kéméré tenta de le ranimer, mais il dut se rendre à l'évidence, Fañch était raide mort. En examinant plus avant le cadavre, Kéméré constata que Gourmelin portait une blessure profonde au côté gauche du crâne, une autre à la nuque, ainsi que plusieurs lésions à la face. Là où, avec laquelle le malheureux travaillait, retrouvait près de lui, indemne de toute trace de sang. Ce n'était donc pas l'arme du crime, parce que vraisemblablement, il y avait eu crime. Gourmelin avait été assassiné. Par qui et pourquoi? Pourquoi? Peut-être pour son argent. En effet, l'ouvrier agricole avait la réputation d'être d'une rare avarice. Il se disait, tant à Élian qu'à Ergué, que Gourmelin serrait dans un portefeuille qu'il portait toujours sur lui plusieurs billets de 1000. Les mieux informés prétendaient qu'il était à la tête d'une petite fortune, 6 à 7 000 francs, disait-on. Et quelque chose comme presque 4 000 euros d'aujourd'hui. Pour l'époque, en sa qualité d'ouvrier agricole, c'était tout à fait exceptionnel. Kéméré fit avertir M. Kernis, le maire d'Élian, qui de son côté alerta la gendarmerie de Quimper, ainsi que le docteur Renaud, médecin légiste. Et dans la soirée, à la lueur des lampes tempêtes, le médecin constata le décès et dans ses premières conclusions, il soutint que Gourmelin avait été attaqué par surprise par un ou plusieurs individus, qu'il avait été frappé à l'aide d'un instrument coupant, peut-être une houe, peut-être une serpe, émit-il. Les gendarmes, qui ne trouvèrent sur le cadavre qu'un porte-monnaie d'enfant contenant quelques centimes et une image pieuse, estimèrent que le ou les agresseurs devaient connaître la victime.
Eh bien, dis donc, il s'en passe des choses dans la campagne d'Élian, à l'est de Quimper, hein, pour vous situer un petit peu. Alors, on récapitule, l'ouvrier agricole Fañch Gourmelin a été sauvagement tué alors qu'il travaillait dans un champ de pommes de terre. Son ou ses agresseurs devaient le connaître et savaient certainement qu'il avait sur lui, donc, un portefeuille bien garni.
Le lendemain, dès la première heure, les gendarmes explorent les pistes possibles. Ils interpellent 2 ou 3 traînes savates, 2 ou 3 bons à rien, mais, hélas, vérification faite, ils étaient à l'heure estimée du crime à plusieurs lieues de là. Les enquêteurs apprirent que précédemment, à son embauche, à la ferme, Fañch Gourmelin avait travaillé en compagnie de 2 autres manœuvres à l'empierrement de la route allant de Kerdévot au Nivrot. Ils apprirent aussi que les 2 dimanches précédents, Gourmelin avait profité de son repos hebdomadaire pour aller rendre visite à l'une de ses filles résidant à Rospordin. Gourbelin, en effet, avait été marié deux fois et de ces deux mariages, quatre enfants étaient nés, deux de chaque nid. Ils apprirent encore que cet homme était unanimement apprécié. Cependant, on le considérait comme un original. En effet, il ne buvait que de l'eau. Et les gendarmes, à l'air de débit en bistrot, voient s'il n'y avait pas dans ces lieux où l'on parle d'ordinaire beaucoup, quelques informations à glaner. Et c'est ainsi qu'ils apprirent qu'un certain Jean-Louis Lizen, jeune homme de 19 ans, domestique de ferme au service de Monsieur Bourbigot à Nivrotte, envisageait de quitter le Finistère pour la région de Rouen afin de rejoindre une jeune fille qu'il avait connue là-bas alors qu'il était manœuvre dans une verrerie. Pourquoi pas, après tout, c'était bien son droit. Ah, oui, mais à ceci près que Lizen n'avait pas le moindre guenec pour entreprendre un tel voyage. Et de plus, Lizen était un petit repris de justice. Parmi les quelques pistes qui s'offraient à eux, les policiers, qui avaient pris l'affaire en main, se dirent que peut-être ce citoyen-là pourrait faire progresser l'enquête. Et les enquêteurs s'en allèrent donc voir du côté de la ferme Bourbigot ce qu'il en était de l'emploi du temps de Jean-Louis Lizen. Ils apprirent que le jour du crime, Lizen avait disparu à 14h30 et n'était réapparu qu'à 16h30 et de ce fait n'avait pas participé à la collation de l'après-midi. À la ferme, on s'était interrogé sur ce retard. Lizen, en effet, ne ratait jamais le 4h. On avait trouvé cela surprenant. Interrogé, Lizen expliqua qu'il avait passé son temps à écrire une lettre et à coudre une pièce sur un pantalon, puis il avait fait la sieste. Si les enquêteurs trouvèrent bien la lettre, il n'en demeurait pas moins qu'elle était inachevée. Par contre, pas de trace du pantalon. Quant à la sieste, on ne pouvait rien en dire. On en était là lorsque l'affaire rebondit.
Ah, mais pour ce rebondissement, il va falloir attendre quelques minutes. Mais en attendant, on va se faire plaisir. C'est Barry White et Let the Music Play qui arrive dans un instant avant de retrouver évidemment Louis Gilda et la suite de cette histoire de crime crapuleux à Élian.
France Bleu Brésil. France
Bleu. One ticket, please. I don't want to see everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's at home. Yeah, she's at home. Let the music play. I just want to dance the night away. Yeah, right here, where I'm gonna stay. Oh. Yeah.
Monsieur Barry White avec cette voix, hein, Let the Music Play. Mais une autre voix aussi qui tous les jours nous raconte ses faits divers en Bretagne. Et aujourd'hui, il nous plonge dans ce crime crapuleux à Élian au début... Oh non, 1930, c'est pas encore le début du 20e. En tout cas, nous sommes en octobre 1930. En Cornouailles, donc, sur la piste de l'assassin de Fange Gourmelin. Les enquêteurs arrivent jusqu'à Jean-Louis Lizaine, un domestique de ferme déjà condamné, dont l'emploi du temps du dimanche 12 octobre présente des lacunes.
Le mardi 14 octobre, un chasseur vient raconter aux policiers ce qu'il avait vu alors que le dimanche précédent, il arpentait la campagne en compagnie de quelques némerolles locaux et il raconta. Il était environ 15h30 lorsque j'ai aperçu Jean-Louis Lizaine à proximité du champ où travaillait Fange Gourmelin. Après deux jours d'enquête, un faisceau de présomptions s'accumulait sur la tête de Jean-Louis Lizaine. Les enquêteurs s'en retournèrent donc à la ferme de Nivrotte afin d'entendre plus de celui qui dorénavant était le suspect numéro un. On le mit en garde à vue à Quimper, on le confronta au chasseur qu'il avait croisé le dimanche du crime et Lizaine reconnut être allé se dégourdir les jambes sur le chemin non loin du champ où travaillait Gourmelin. Ce champ est à tout juste 10 minutes de Nivrotte. Si je l'ai pas dit aux enquêteurs, c'est que je l'avais oublié, affirma-t-il avec force. Beaucoup de présomptions, mais pas de preuves tangibles. Alors on le relâcha. Il regagna Nivrotte, mais les enquêteurs avaient un plan. Un coup de poker, sans doute, mais qui va s'avérer payant. Lorsque Lizaine regagne la ferme de M. Bourbigaud, les policiers vont planquer et attendre la faute. Ils savent, comme beaucoup, que Lizaine veut partir en Normandie, rejoindre sa maîtresse, et qu'il n'a pas d'argent. Lizaine, sentant que pour lui sa pull roussit, ne pense qu'à une chose, prendre le large. Mais l'argent? L'argent, bon sang, mais c'est bien sûr l'argent, celui de Fange Gourmelin, qu'il a planqué au-dessus d'une poutre, dans le réduit qui lui sert de chambre au-dessus des écuries. Et il se dit, si les flics reviennent et qu'ils trouvent les billets, je suis fait. Il va alors déplacer le magot et le cacher, sans doute provisoirement, pense-t-il, dans une meule de paille se trouvant dans la grange. Et c'est comme cela que les enquêteurs vont le pincer. Lizaine est pris au piège, Lizaine avoue son forfait et il avoue aussi avoir un complice en la personne de André Tanguy, un jeune garçon de 14 ans, pupille de l'assistance publique et originaire de Poudalmézo dans le Léon. Les deux individus sont mis en état d'arrestation et écroués à la prison de Metz-Gloagne en attendant leur procès qui arrive devant les assises du Finistère le 18 janvier 1931.
Alors voilà, l'affaire s'éclaircit. Hein, l'assassin de Fange Gourmelin serait bien donc Jean-Louis Lizaine. En plus, il a avoué son crime pour lui voler de l'argent, pris de la main dans le sac hein, par les policiers qui planquaient. Mais il dit aussi qu'il donc il a eu un complice, un jeune garçon de 14 ans, pupille de l'assistance publique.
Les deux jeunes hommes, Louis-Marie Lizaine, dit Jean-Louis Lizaine, et André-Marie Tanguy comparaissent donc le 18 janvier 1931 devant la cour d'assises du Finistère à Quimper. Les débats sont présidés par le conseiller à la cour d'appel de Rennes, Bertin, assisté de messieurs Durand et Dufour, juge du siège. Le vice-procureur l'héritier occupe le plateau du ministère public. La défense de Lizaine est assurée par Maître Jadet, celle de Tanguy par Maître Alison, tous deux du barreau de Quimper. Une foule nombreuse se presse à l'entrée du tribunal. Pas de place pour tout le monde, il faut refouler, ce à quoi s'emploie une dizaine de gendarmes. Au banc des accusés, Lizaine porte beau. Jeune homme au physique avantageux et beaucoup de femmes dans la salle. Elles sont venues voir le mal tueur, des regards fantasmatiques, de quoi peut-être réveiller chez elles des sens jusqu'alors endormis. Lizaine est élégamment vêtue, ce qui est pas très ordinaire chez un domestique agricole. Sous le beau jeune homme endimanché, on devine la gouape du faubourg, on sent le dessalé sorti de son village, écrit le chroniqueur de la dépêche de Brest. À ses côtés, tout petit Tanguy. Et le chroniqueur de poursuivre. Un enfant de 14 ans, donnant l'image d'un gamin craignant d'être interrogé alors qu'il n'a pas appris sa leçon. Le président interroge Lizaine. Accusé, donnez-nous le récit des faits. Et Lizaine de répondre qu'il ne s'en souvient pas. Une réponse qui ne satisfait pas du tout le président. Et alors il rappelle à l'accusé son crime par le détail. La préméditation ressort à chaque ligne. Crime avec préméditation, c'est un assassinat. Ça peut valoir la peine de mort, même pour un mineur. À l'époque, la majorité est à 21 ans et Lizaine en a 19. Et au tour de Tanguy, de passer à la moulinette, le président. Pourquoi avez-vous docilement suivi Lizaine, Tanguy? Je le craignais. Il me menaçait. Il m'avait dit qu'il voulait acheter un revolver. J'avais peur. Le président. Vous lui serviez de secrétaire. Vous avez plus d'instructions que lui. Vous écriviez sous sa dictée ses lettres. Oui, monsieur le président, reconnaît André Tanguy. Lizaine, originaire de Fouesnant, malgré son jeune âge, a déjà beaucoup vécu. Il a été ouvrier dans plusieurs verreries de Normandie et en région parisienne. Et en plus, il a été condamné par le passé à quelques jours de prison pour port d'armes prohibées, vol et violence. Demain, les faits, les témoins, les plaidoiries et le verdict.
France Bleu, Breizh-Izel. France Bleu.
Elles sont liées bien souvent et parfois elles sont libres. Elles font des cerfs-volants, elles écrivent des livres. Parfois elles sont ouvertes, parfois elles sont courantes. Il y a des gens qui les ferment et des gens qui les tendent. On les met sur le cœur, on les met dans les poches. Elles construisent des parcs où vont courir les mioches. Si elles servent à sévir parfois autour du monde, on pourrait les unir, ça ferait une ronde. Celles qui tiennent des armes, celles qui sèchent des larmes, qui consolent les enfants. Celles qui nous unissent, celles qui nous punissent, moi ma main je l'attends. Donne-moi ta main, gamin, et toi prends la scène et nous ferons une ronde, une échelle. Donne-moi ta main, gamin, et reprends la sienne. Nous tournerons en rond, elle est ma peine. Donne-moi ta main, donne-moi ta main, gamin, et nous tournerons en rond, elle est ma peine. Parfois elles sont heureuses, parfois elles sont si seules. Quand elles sont baladeuses, tu les prends dans la gueule. Elles sont nues bien souvent, y'a des gens qui la gantent. On les met à couper, y'a des gens qui les demandent. Celles qui tiennent des armes, celles qui sèchent de larmes, qui consolent les enfants. Celles qui nous unissent, celles qui nous punissent, moi ta main, je l'attends. Donne-moi ta main, gamin, et je reprends la sienne et nous ferons une ronde, une échelle. Donne-moi ta main, gamin, et je reprends la sienne, nous tournerons en rond, elle est ma peine. Donne-moi ta main. J'étais perdu, tu sais, comme toi, dans la peine, j'ai attendu que l'on prenne la mienne d'une main tendue. tu sais, on peut faire des chaînes. Et aujourd'hui, c'est moi qui prends la tienne. Donne-moi ta main, gamin.
Claudio Capéo sur France Bleu Brésil avec ta main. Venez prendre aussi votre tour, donnez-vous la main, ça bien entendu, hein, mais venez à notre standard au 02 98 53 65 65 dans quelques minutes, puisque ce sera le studio ouvert. Vous pouvez venir annoncer les manifestations que vous organisez en ce week-end ensoleillé, sportif, culturel ou que sais-je, n'hésitez pas, cette antenne est la vôtre, comme tous les samedis matins. En attendant, on continue avec cette sombre histoire de sombre crime. Crime crapuleux à Élian avec Louis Gilda. Alors Louis, nous en étions au procès de Jean-Louis Lizen et de son complice, le jeune André Tanguy, 14 ans. Ce procès qui se déroule à Quimper le 17 janvier 1931, soit seulement 3 mois, hein, presque, après le crime. Alors aujourd'hui, la victime, les faits, les témoignages et enfin le verdict.
La victime, François Gourmelin, âgé de 56 ans, que tout le monde appelait Fanche, était un homme estimé, un homme courageux, un homme sobre, mais aussi un homme avare. Mais que savait-on de sa vie pour soutenir cela ? Rien ou pas grand-chose. Mais l'enquête révélera que Gourmelin, séparé de son épouse, était père de 4 filles. Ce n'était pas un père indigne. Avec l'argent qu'il gagnait, il aidait ses enfants. Alors que l'on parlait de 5, de 6, voire de 7 000 francs, le jour de son assassinat, Gourmelin n'avait sur lui que 1650 francs. Lizen eut l'idée de voler Gourmelin lorsque ce dernier, quelques semaines avant, exhiba sous son nez 5 billets de 100. Argent que Gourmelin avait gagné en cassant des cailloux. Un soir, Lizen dit à Tanguy « Gourmelin est bon à faire ». Et Tanguy répondit « Si tu veux ». Dans un premier temps, Lizen envisagea de dévaliser Gourmelin. Mais ce dernier, même pour travailler, ne quittait jamais sa veste. C'est alors que l'idée est venue de le tuer. Tout sera combiné la veille du crime et le lendemain, Lizen demande à Tanguy de l'accompagner sur les lieux du forfait. André Tanguy raconte « Il m'a dit de monter sur un talus pour faire le guet. Je n'ai rien vu de ce qui se passait dans le champ. Une tranche, une houe si l'on préfère, était posée contre un chêne têtard. Lizen s'en saisit et après, semble-t-il, une brève discussion, il frappa violemment Gourmelin en arrière de la tête, provoquant, selon les déclarations du légiste, l'éclatement du rocher et une mort quasi immédiate. Qu'était devenue l'arme du crime ? On ne le sait. Dans les fermes, les houes sont des instruments banals et à l'époque, rien ne permettait d'identifier un outil devenu arme par destination. L'expert psychiatre qui examina Tanguy déclara à la barre « Il est malléable, il peut suivre un bon » comme un mauvais conseil. C'est en quelque sorte l'autre victime de Lizen. Et Lizen, de qui était-il la victime ? De la société ? Oh, à l'époque, on ne parlait pas de ça. Mais après une enfance malheureuse, il eut la volonté de réussir quelque chose. À 17 ans, il quitte la Bretagne pour la Normandie, devient ouvrier verrier, rencontre une jeune femme, et tombe dans les affres de la justice pour une affaire de vol, et suite à quoi, la jeune fille ne souhaite plus poursuivre leur relation. Furieux, il revient en Bretagne avec en projet l'achat d'un revolver pour régler son compte à la jeune femme. Pas d'argent pour l'arme, pas d'argent pour le voyage, et la solution, si l'on peut dire, c'est de tuer Gourmelin. Vinrent les témoins de moralité, pas vraiment défavorables à Lizaine. Quant à Tanguy, son patron, Bourbigot, déclare « Qu'il soit condamné ou non, je le reprendrai à mon service, c'est un bon garçon. » Parole au ministère public qui demande une sanction exemplaire. « Il faut débarrasser la société de Lizaine », martèle-t-il, tout en soulignant que Tanguy n'a été dans cette affaire qu'un objet. Plaidoirie de maître Jacques pour Lizaine qui met en avant l'enfance malheureuse de son client. Pour Tanguy, maître Alizon soutint qu'il fut complice par peur de Lizaine. Après une longue délibération, Lizaine est condamné à 15 ans de prison. Quant à Tanguy, il est acquitté.
Et voilà cette histoire de crime crapuleux à Élian, racontée par Louis Gilda, bien entendu. Les faits divers en Bretagne que vous retrouvez toute la semaine à 12h20 et 16h35. Et bien sûr en intégralité sur francebleu.fr.
France Bleu Brézizel. France Bleu.